France Inter, il est 7h15.
Le 6-9 de l'été. Karine Bécard sur France Inter.
Quand ils se mettent à faire aussi chaud et quand le sol est tellement sec qu'il n'est même plus possible d'absorber l'eau, ça nous inquiète. Non, ça nous étreint. Ça nous dit qu'il arrivera forcément un jour où nous ne contrôlerons plus rien. 80 secondes ce matin pour oser descendre et tenter de comprendre ce qui se passe dans nos nappes phréatiques. Et tant pis si ce n'est pas assez poétique.
Les nappes phréatiques, c'est la première nappe en dessous de la surface du sol. C'est-à-dire que c'est une nappe profonde qui se trouve à quelques mètres de profondeur.
Elles vont vers la mer,
celles-là. Alors celles-là, oui, se déversent d'abord dans les cours d'eau. Lesquels cours d'eau se déversent vers la mer. Elles sont très utilisées pour l'alimentation en eau des agglomérations, des industries. Et en France, elles représentent de l'ordre de 60% pour l'alimentation en eau des villes et des villages.
Depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis les années 70, des scientifiques travaillent et surveillent 10 fois par an, je dis bien 10 fois par an, l'état de nos nappes phréatiques. Voilà pourquoi on entend tout le temps qu'il manque de l'eau, qu'il n'y en a pas suffisamment, avec cette impression qu'il n'y en aura probablement désormais plus jamais autant qu'avant. Seulement, est-ce que c'est vrai? Nos sols, structurellement, n'ont guère changé. 4000 nappes phréatiques sont toujours décomptées, mais la pluie, pour les alimenter, s'est raréfiée. Notre consommation, surtout, n'a pas cessé de s'emballer. Certes, on s'est un peu calmé, sauf qu'il n'empêche, nous buvons, nous utilisons, nous gaspillons chacun, chaque jour, 145 litres d'eau. À raison de 66 millions de copains et de voisins, il va donc falloir apprendre à nous calmer et à la partager. Le Zoom. Le Zoom de France Inter, le meilleur de nos grands reportages aux États-Unis cette semaine avant le lancement des conventions lundi prochain. Ce matin, nous vous emmenons dans un territoire américain situé sur l'île de Cuba, à Guantanamo. La prison a été ouverte il y a un peu plus de 18 ans et c'est là-bas que doit se tenir un jour le procès de 5 commanditaires des attentats du 11 septembre. Notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips, a pu passer 5 jours sur place dans la prison la plus chère du monde.
Le Boeing 737, affrété par le département de la Défense, a quitté la base d'Andrews, en banlieue de Washington, au petit matin. À bord de l'appareil à moitié vide, on repère à l'avant le juge qui, cette semaine, tiendra une commission militaire, puis l'équipe du procureur, puis les avocats de quelques-uns des 40 hommes toujours détenus là-bas. À l'arrière, la journaliste du New York Times, Carol Rosenberg. Elle couvre Guantanamo depuis plus de 20 ans, avant même l'ouverture de la prison, et y passe une à deux semaines par mois, à dormir sous une tente installée à Camp Justice. Carol Rosenberg est sans aucun doute la personne qui connaît le mieux Guantanamo Bay.
Jusqu'à 780 prisonniers sont passés par là. 9 sont morts ici. Certains ont été renvoyés chez eux. Quelques-uns ont été condamnés. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 40 détenus. 9 doivent répondre de crimes de guerre. Et tous les autres sont ici sans charge, considérés comme prisonniers de guerre, la guerre contre le terrorisme.
La base américaine abrite 6000 personnes au total, dont 1800 gardiens et 200 civils uniquement affectés à la surveillance de 40 détenus. Le coût de la prison est astronomique.
On a trouvé une étude qui démontre que cette prison coûte 13 millions de dollars par an et par prisonnier. Guantanamo, c'est cher parce qu'on a choisi Guantanamo. C'est isolé, loin de tout. Ils ne peuvent absolument rien acheter à Cuba. Ils doivent tout importer, par avion ou par une barge. 6000 personnes vivent sur la base. C'est une petite ville avec les marins et leurs familles. Il y a une école, une église, un cinéma, et tout ça coûte très cher.
17h, le clairon annonce la fin de la journée. Le temps et la justice passent extrêmement lentement à Guantanamo pour une raison que le major James Valentine, qui défend 2 des prisonniers, explique clairement. La plupart de ces hommes ont été détenus dans les prisons secrètes de la CIA entre 2003 et 2006, torturés. Aujourd'hui, ils sont là, prisonniers de guerre. Et la justice militaire en cours à Guantanamo ne sait pas comment gérer cela.
Vous ne pouvez pas torturer quelqu'un et après organiser un procès qui respecte les standards internationaux de justice. Qui plus est, la CIA ne révélera jamais ce qu'elle sait.
Voici Suzy Hensler, avocate, civile cette fois, qui dirige l'équipe de défense d'Abdaladi al-Iraki, soupçonné d'avoir été l'un des commandants militaires d'Al-Qaïda. L'homme a 59 ans, l'âge des détenus fait que le coût de leur détention va encore augmenter.
Il n'y a pas ici le niveau médical suffisant pour cette population de détenus âgés, en particulier des prisonniers qui, dans le passé, ont été torturés et qui souffrent encore physiquement et psychologiquement des traitements qu'ils ont subis.
Sur le campement de toile beige, installé pas très loin du tribunal militaire et normalement réservé à la presse, Carole Rosenberg est cette semaine-là la seule journaliste américaine à couvrir les audiences. Beaucoup de ses confrères ont renoncé, mais elle continue, soutenue par son journal, le New York Times, et par l'organisation du prix Pulitzer.
C'est une prison américaine, un tribunal militaire américain. Je me sens obligée de montrer à mes lecteurs ce qui se passe ici.
Donald Trump a déjà dit qu'il n'avait aucunement l'intention de fermer Guantanamo. Et au printemps dernier, le Pentagone estimait qu'il aurait encore besoin de garder cette prison ouverte pour les 25 prochaines années.
Guantanamo, la prison la plus chère du monde. Reportage signé Grégory Phillips dans le meilleur des zooms de la saison sur France Inter.